Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. 11h30 en temps universel, il est midi et demi ici à Paris.
RFI midi, Anne Cantner.
RFI midi, 2 heures ensemble avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux, avec nos invités pour faire le tour de l'actualité dans le monde. Nous irons à Bakou où la COP29 a commencé ce matin.
La COP29 est un moment de vérité pour l'accord de Paris. Elle mettra à l'épreuve notre engagement envers le système climatique multilatéral. Nous devons maintenant démontrer que nous sommes prêts à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Ce n'est pas chose aisée.
Le président de la COP, un rendez-vous déjà objet de critique, notamment à cause de la place des hydrocarbures dans l'économie du pays hôte, l'Azerbaïdjan, à cause de l'élection de Donald Trump, qui ne cache pas son peu d'investissement pour cette question, et puis à cause aussi de l'absence de plusieurs dirigeants, notamment de pays qui font partie des plus grands pollueurs de la planète. Dans ce contexte, à quoi sert la COP? Nous poserons la question à notre invité dans 3 quarts d'heure. Nous irons aussi en Ukraine, bombardée massivement la nuit dernière par la Russie. Les civils et les infrastructures en ligne de mire. Détail dans quelques instants avec notre correspondante à Kiev. Au sommaire également, la crise politique en Haïti. Après des mois de tensions croissantes entre les deux têtes de l'exécutif, le Conseil présidentiel de transition a écarté le Premier ministre. Gary Conille doit être remplacé aujourd'hui par l'homme d'affaires Alix Didier-Fils-Aimé. Quelles conséquences ? On en parle juste après le journal de 13h, temps universel, et après la publication ce week-end des derniers résultats de la présidentielle aux États-Unis. Nous essaierons aussi de comprendre comment Donald Trump a pu remporter un tel succès. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue.
RFI Midi. L'Europe à midi.
Matinée sous haute tension en Ukraine, des alertes ont retenti dans presque tout le pays, alertes aériennes déclenchées après le décollage d'un nombre très important de bombardiers russes. Il y a eu aussi des attaques de drones ces dernières heures qui ont fait au moins 8 morts et des dizaines de blessés à Mykolaïv et à Zaporijia. Emmanuelle Chasse, vous êtes notre correspondante. Encore une fois, les frappes russes ont visé des bâtiments civils et des immeubles.
Les frappes russes contre les infrastructures ukrainiennes sont quotidiennes, en plus d'endommager, par exemple, les sources d'énergie pour priver les Ukrainiens d'électricité. Notamment, la Russie vise aussi des hôpitaux, des immeubles résidentiels dans un but de subjugation des Ukrainiens, en rendant leur ville tout simplement invivable, comme on le voit avec les frappes contre Zaporijia et Mykolaïv la nuit dernière. La ville de Zaporijia, 700 000 habitants avant-guerre, a de nouveau été touchée par une bombe planante cette nuit qui a fait des dizaines de blessés et au moins 1 mort, le tout dans une région partiellement occupée par les Russes et qui a été bombardée plus de 350 fois pour la seule journée de dimanche. Ces frappes ne sont pas nouvelles, mais elles se sont multipliées ces dernières semaines, surtout avec des drones qui ont aussi pour but d'épuiser la défense antiaérienne ukrainienne en prévision de futures frappes de missiles qui, eux, sont plus dévastateurs et plus difficiles à intercepter. Et on voit également la Russie utiliser de plus en plus des bombes planantes, peu coûteuses et à très forte charge explosive. Emmanuel Chasse, Kiev, RFI.
Les bombardements quotidiens et l'inquiétude concernant le soutien occidental après l'élection de Donald Trump. Mais il ne faut pas trop préjuger de la future administration américaine. C'est le président français qui le dit ce matin, après des informations de presse faisant état d'un appel téléphonique entre le président élu, Donald Trump, et Vladimir Poutine. Information démentie par le Kremlin. Nous sommes en direct avec notre correspondante à Moscou, Anissa El-Jabri. Les autorités russes démentent donc les informations rapportées par le Washington Post.
Oui, on avait pu pourtant d'abord avoir le sentiment qu'il se passait quelque chose. Le Kremlin avait par exemple dimanche matin déclaré via une rare interview de son porte-parole à ce moment-là de la semaine que le Républicain avait envoyé pendant la campagne, je cite, des signaux positifs concernant le conflit puisque, je cite encore, il a évoqué une possible paix et n'a pas montré de volonté d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Ce type de déclaration très imprécise, eh bien ça signe l'intérêt de Moscou est potentiellement que des contacts se déroulent en coulisses. Plus le Kremlin prend un sujet au sérieux et moins il communique. L'article du Washington Post était, lui, ces dernières heures largement commenté en Russie, en une des sites web des médias ce matin, mais toujours avec beaucoup de précautions. La très légitimiste comme Komsomolskaya Pravda commençait ainsi par écrire « L'Ouest rapporte une conversation entre Donald Trump et Vladimir Poutine ».
Et finalement, coup d'arrêt donc venu du pouvoir russe à la mi-journée, Anissa.
Voilà, Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, s'est exprimé pour un démenti. C'est court, mais c'est sans aucune ambiguïté. Écoutez.
C'est l'exemple le plus flagrant de la qualité des informations qui sont aujourd'hui publiées, parfois même dans des publications tout à fait respectables. C'est complètement faux. C'est de la pure fiction, c'est un mensonge complètement faux.
La presse qui soutient le Kremlin, les experts à la télévision, ici tout le monde martèle depuis une semaine le même message. Les États-Unis sont et resteront un ennemi historique de la Russie. Le message est, c'est vrai, bien commode. Il permet de présenter tout potentiel accord comme une victoire éclatante et il permet aussi de mettre sur le dos de Washington n'importe quel échec.
Anissa El-Jabri en direct de Moscou, la Russie qui accueille des milliers de soldats nord-coréens. On en a beaucoup parlé ici ces dernières semaines. Pourquoi faire ? Le traité de défense mutuelle signé en juin avec Pyongyang a-t-il pour but de pallier le manque d'effectifs sur le terrain ? C'est possible, estime le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, car le président russe ne veut pas d'une nouvelle mobilisation, mais il doit faire face à des pertes très importantes. Selon le chef des forces armées britanniques, la Russie a enregistré plus de 1500 morts ou blessés chaque jour durant le mois d'octobre. Écoutez le général Jérôme Pellistrandi.
C'est possible. Ce qui est très important, et vous l'avez dit, c'est qu'il s'agit de la déclaration faite par le chef d'état-major britannique. Donc ce n'est pas une déclaration faite par un officier général en retraite, en quelque sorte. C'est une déclaration officielle et qui traduit d'une part l'intensité de la guerre en Ukraine, qu'on a un peu passé sous silence sur le plan médiatique depuis de nombreux mois, mais qui traduit aussi le fait que c'est quelque chose, enfin, avec plus de 700 000 soldats russes qui sont morts ou blessés, c'est une guerre épouvantable. Et effectivement, on pourrait penser que ce traité entre la Corée du Nord et la Russie pourrait permettre en quelque sorte au régime nord-coréen d'envoyer des soldats qui pourraient suppléer en quelque sorte aux Russes. Mais de ce côté-là, il faut rester prudent parce qu'il faut du temps. Et avant que la masse de soldats nord-coréens atteigne une masse critique en quelque sorte, cela ne se fera pas dans les semaines ou mois à venir.
Le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.
RFI à Paris, 89 FM.
L'actualité ce lundi, c'est aussi le coup d'envoi de la COP29, la conférence des Nations Unies sur le climat. Alors que les derniers chiffres sur les températures mondiales le confirment, 2024 sera bien l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec pour la première fois un réchauffement d'un degré et demi par rapport au milieu du 19e siècle. Un degré et demi, c'était l'objectif le plus ambitieux fixé par l'accord de Paris en 2015. 9 ans plus tard, c'est le moment de vérité, dit le président de la COP en Azerbaïdjan. Mourtar Babayev a lancé un appel à l'ouverture ce matin.
Colleagues, we are on the road to ruin.
Chers collègues, nous sommes sur le chemin de la ruine et il ne s'agit pas de problèmes futurs. Le changement climatique est déjà là. Des maisons inondées en Espagne aux incendies de forêt en Australie, de la montée des océans dans le Pacifique aux plaines arides d'Afrique de l'Est, que vous les voyez ou non, des gens souffrent dans l'ombre. Ils meurent dans l'obscurité et ils ont besoin de plus que de la compassion, des prières et de la paperasserie. Ils réclament à corps et à cri une direction à suivre et des actions. La COP29 est le moment à ne pas manquer pour tracer une nouvelle voie pour tous.
COP29 is an unmissable moment to chart a new path forward for everyone.
Le président de la COP29, dont les liens avec l'entreprise nationale d'hydrocarbures sont critiqués, dans un pays dont le pétrole et le gaz représentent 90% des exportations. L'enjeu principal de cette COP, c'est de fixer le montant de l'aide climatique des pays riches pour permettre aux autres de se développer sans pétrole ni charbon. Le charbon est une énergie très polluante qui a beaucoup contribué à l'essor des pays européens, par exemple. Eh bien, le Royaume-Uni y a totalement renoncé il y a quelques semaines en fermant sa dernière centrale, mais c'est plus difficile pour d'autres, comme la Pologne, premier pays producteur du continent européen. Elle en extrait 3,5 millions de tonnes chaque année. Mais cette industrie, en plus des dégâts environnementaux, a aussi des conséquences lourdes sur la santé de nombreux Polonais. Reportage, Adrien Sarlat.
À peine le temps de refermer les portes que l'ascenseur de la mine nous propulse 320 mètres sous terre. Aujourd'hui, la mine de Gwido, située dans la cité minière de Zabrze en Silésie, au sud-ouest de la Pologne, a été reconvertie en musée. C'est ici, dès son extraction, que le charbon a fait ses premières victimes. Jerzy Hopka est aujourd'hui à la tête du syndicat des mineurs polonais. Dans la mine où il travaille, il a vu sa santé et celle de ses collègues se dégrader au fil de sa carrière.
Le travail à la mine, c'est un travail très difficile et il comporte de nombreux risques pour la vie des mineurs. Les principaux sont la silicose et la perte d'audition.
S'il lui a davantage été exposé au bruit des machines jusqu'à perdre une partie de son audition, la majorité de ses collègues ont contracté la silicose, une maladie respiratoire particulièrement répandue chez les mineurs.
La silicose est souvent confondue avec la tuberculose car les symptômes sont plus ou moins similaires. Cependant, la silicose est plus dangereuse car elle provoque le blocage des alvéoles pulmonaires. Et avec les années, plus le mineur est exposé à la sciure, plus ses poumons sont obstrués, il n'a plus de force et finit par avoir du mal à monter les escaliers.
Une maladie incurable, responsable de la mortalité précoce des mineurs. Aujourd'hui, les visites médicales obligatoires permettent de les repérer plus tôt et d'écarter les travailleurs de la mine en cas de risque pour leur santé. Mais Yagé se souvient qu'à l'époque, ses collègues s'arrangeaient pour passer sous silence les recommandations de leurs médecins.
On poussait le mineur à changer de poste, ce qui se traduisait souvent par une rétrogradation. Et beaucoup de mineurs ont donc décidé d'ignorer les recommandations pour conserver leur poste. Ils ne se rendaient compte du problème que lorsqu'ils commençaient à se sentir affaiblis, alors que la maladie avait déjà atteint leurs poumons. Mais quand c'est trop tard, car l'argent, ça se récupère, mais pas la santé.
Mais les effets du charbon se font sentir au-delà des régions minières. Le pneumologue Tadeusz Jelonka à Varsovie est spécialiste des questions de pollution. Il alerte sur le danger de la concentration de particules de charbon dans l'air qui menace la santé de la population. Selon l'Agence européenne de l'environnement, la pollution est à l'origine de près de 50 000 décès chaque année en Pologne.
La qualité de l'air et l'espérance de vie sont directement liées. Moins la concentration de particules dans l'air est forte, moins il y a de décès, et c'est avéré. Dans les cas extrêmes, la pollution peut entraîner la mort par crise cardiaque ou des AVC et des apoplexies. Après ça, vous avez les maladies chroniques pulmonaires, les maladies artérielles et le cancer, mais enfin l'infection pulmonaire.
Le médecin regrette cependant que le problème reste ignoré par la grande majorité de la communauté médicale dans le pays.
Les connaissances sur les pollutions atmosphériques ne font pas partie de la formation des médecins. Donc ils passent à côté de l'information, ne sensibilisent pas leurs patients et la société n'a pas conscience du problème.
Le professeur salue néanmoins le travail des associations militantes comme Alarme Fumée. Depuis plusieurs années, elle attire l'attention des médias sur la nécessité d'une transition énergétique.
Vous voyez sur cette carte que la Pologne est en rouge, alors que le reste de l'Europe est en vert. Cela signifie que la concentration de pollution dans l'air est très importante.
Pour Piotr Sergei, le porte-parole de l'association, le problème vient avant tout des chaudières à charbon individuelles. On en compte 2 millions dans le pays et elles brûlent chaque année deux fois plus de charbon que ce que produisent les mines polonaises.
Si c'est pour brûler du charbon d'Australie ou du Kazakhstan, ça n'a pas de sens. En fait, il faut prendre le problème dans l'autre sens. Il ne faut pas agir au niveau des mines, mais remplacer les chaudières à charbon, car elles sont trop nombreuses par rapport à nos capacités de production minière.
À elles seules, ces chaudières sont responsables de plus de 90% de la pollution atmosphérique totale dans le pays.
Il y a ce programme du gouvernement intitulé « Air pur » qui existe depuis déjà 5 ans et qui finance le remplacement des poêles dans les maisons, car c'est là que se concentre notre problème en Pologne. Et depuis le début du projet, on a fait disparaître un tiers du problème en seulement 5 ans.
Selon lui, à cette cadence, la Pologne pourrait se débarrasser du charbon d'ici 10 ans, une transition écologique qui nécessitera cependant d'accélérer le développement des énergies renouvelables et de réfléchir à l'avenir du secteur minier, voué à disparaître en Pologne. Le gouvernement polonais s'est fixé pour objectif une sortie du charbon à l'horizon 2050.
Reportage d'Adrien Sarlat à réécouter ce soir dans l'émission Accent d'Europe à partir de 19h10 temps universel.
RFI Midi. L'Europe à midi.
L'Europe commémore aujourd'hui la fin de la Première Guerre mondiale, l'armistice de 1918. Et pour la première fois depuis des décennies, le Premier ministre britannique est en France pour l'occasion. Keir Starmer, reçu par Emmanuel Macron pour parler notamment, en marge de ces célébrations, de la guerre en Ukraine et du soutien occidental. L'une des questions qui se posent concernant cette guerre, débutée il y a 110 ans, concerne la mémoire Aujourd'hui, il n'y a plus de témoins, plus personne pour raconter l'horreur des tranchées, la détresse des soldats et la peur panique d'être envoyés au front. Alors des artistes tentent de prendre le relais et notamment un genre musical souvent assez énervé, Thomas Harms, le métal, comme une libération des souffrances de cette période.
Une odeur insoutenable règne ici, celle des cadavres des copains, tués à quelques mètres lors d'une précédente offensive et qu'on doit laisser pourrir là. Alors on fume pour faire passer l'odeur.
Ce texte est une compilation de véritables lettres envoyées depuis le front pendant la Première Guerre mondiale. Tom Messane est le chanteur du groupe de musique FT-17.
Ce qui m'intéresse vraiment, c'est surtout l'horreur, comme dit devoir de mémoire. Ça m'intéressait bien ce côté complètement désespéré que tu peux ressentir dans les tranchées.
La musique dure, les tonalités sombres, puissantes et les voix criées transmettent la souffrance des soldats face au massacre.
Les deux côtés, de toute façon, ont autant morflé, que ce soit allemand et français. C'est plutôt vraiment pour retranscrire l'horreur qui a eu lieu dans ce qu'ont connu les poilus, dans la sueur, la boue, la merde, etc. C'est refaire sentir cette crasse-là et surtout que ça se reproduise pas, quoi.
Outre Rhin, le même concept est porté par le collectif Cannon and Fiber. Faire ressentir la Grande Guerre, la tristesse, la terreur et l'absurdité de la guerre, en particulier l'écart entre les donneurs d'ordre et ceux qui meurent dans la boue et sous les bombes. Selon Pascal Goeg de la Fédération des musiques métalliques, ce genre musical est le média idéal pour faire ressentir ces sensations.
C'est toujours cette histoire de catharsis, hein, comment on transcende la violence et la douleur en la mettant en musique, quoi. Donc je pense que c'est assez cohérent par rapport à la démarche artistique du métal.
Le groupe nantais FT-17 compte déjà 3 albums qui couvrent l'histoire d'un poilu, Marcelin Trouvé, depuis sa mobilisation en passant par la bataille de Verdun et jusqu'à sa mort au chemin des Dames en 1917.
Nous vous emmenons maintenant en Slovaquie, où les médias sont très éprouvés par le retour au pouvoir du nationaliste et populiste Robert Fico. En un an, les restructurations, les pressions ou encore l'interdiction de participer à des conférences de presse se sont multipliées. Pression contre des médias encore traumatisés par l'assassinat en 2018 du journaliste d'investigation Jan Kuciak. L'influence croissante de l'État sur l'audiovisuel public inquiète de plus en plus Alexis Rosenzweig.
La salle du café de l'université Comenius est remplie pour une conférence sur la désinformation en Slovaquie, où l'une des particularités est que cette désinformation émane régulièrement de membres du gouvernement de Robert Fico, journaliste indépendant. Martin Hodas est spécialisé dans le domaine.
Ici, la désinformation a été en partie amplifiée par le nouveau gouvernement. Il a tout fait pour revenir sur ce qui avait été mis en place contre ce phénomène. Et maintenant, après les mesures adoptées pour contrôler l'audiovisuel public, c'est aux journalistes de la radio et de la télévision nationale de se défendre activement pour ne pas céder à la pression et ne pas devenir un média d'État.
Professionnalni tým redaktorov a moderátorov.
Sous les coups de boutoir du gouvernement, la radio-télévision publique a changé de nom et son conseil de surveillance est désormais élu par les députés de la coalition, ce qui est sévèrement critiqué par l'opposition libérale slovaque ainsi que par Reporters sans frontières, où Pavol Salaj est en charge de la région.
Nous avons déjà une loi en Slovaquie qui a été votée et qui a fragilisé de manière extrêmement importante l'indépendance de l'audiovisuel public. Déjà, l'état actuel dans lequel nous nous trouvons est sérieux, puisque l'audiovisuel public en Slovaquie est dirigé par une personne nommée par le président du Parlement suite à un accord des partis au gouvernement. Ce n'est absolument pas conforme à des standards européens de l'indépendance des médias publics et à la loi européenne sur la liberté des médias. Nous sommes convaincus que cette loi et le fonctionnement actuel ne sont pas conformes à cette législation européenne et il y a lieu pour la Commission européenne de commencer une procédure pour infraction du droit européen.
Pour ce qui est des médias privés, certains sont la cible privilégiée de Robert Fico et des membres de son gouvernement qui refusent également de répondre à leurs demandes d'interview ou de les laisser entrer aux conférences de presse. Beata Balogova est la rédactrice en chef de SME, l'un des principaux quotidiens du pays.
Robert Fico et ses collègues ont appris à utiliser des tactiques développées par Viktor Orban pendant 10 ans, avec des narratifs similaires ou des cibles comme George Soros. Robert Fico a compris que pour avoir la main mise sur la société, il devait lui aussi bâtir un petit empire médiatique. C'est pour ça que son gouvernement a commencé à donner une certaine légitimité à des médias qui pratiquent la désinformation. Lui n'a pas encore accordé d'entretien à notre quotidien depuis 15 ans, mais il en donne à des sites internet financés par la Russie.
L'actuelle ministre de la Culture elle-même travaillait pour un site de désinformation avant d'entrer au gouvernement, où elle a également en charge le dossier de l'audiovisuel public, Martin Hodas.
C'est un média qui s'appelle TV Slovan, pour lequel elle a travaillé avec une autre personne élue au Parlement entre-temps. C'était le type de vidéo complotiste qui colportait des rumeurs assez absurdes, comme l'idée qu'on inoculerait des puces électroniques aux gens pour les suivre, un peu du niveau de la théorie que la Terre est plate. Mais elle a réussi à se faire élire et à devenir ministre. Et on redécouvre aujourd'hui les dingueries qu'elle a contribué à propager.
Quant au Premier ministre Robert Fico, il a été critiqué même par certains de ses soutiens pour avoir participé à la principale émission de propagande du Kremlin sur la première chaîne de télévision russe. La même semaine, la télévision publique slovaque annulait un entretien avec le réalisateur d'un documentaire sur l'ancienne présidente du pays, alors que la chaîne avait accepté, mais sous la précédente direction, de coproduire le film.
Reportage de notre correspondant en Slovaquie, Alexis Rosenzweig, à retrouver quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio, rubrique Accent d'Europe.
RFI Midi, un monde de tech.
C'est un sujet de préoccupation pour beaucoup de familles en Europe, le temps passé par les adolescents devant leurs écrans et surtout le risque de voir les plus jeunes être exposés à des contenus inappropriés. Il existe une loi en France votée l'année dernière. Elle a instauré la majorité numérique à 15 ans, mais cette loi, elle n'est pas encore entrée en vigueur en attendant un texte au niveau européen. Et puis surtout, tous les textes, on le sait, ont des limites puisque les règles sont facilement contournables. Bonjour Olivier Four.
Bonjour.
Il est donc indispensable d'associer les géants de la tech et les réseaux sociaux pour que eux-mêmes renforcent la protection des mineurs. Et ça, c'est précisément ce que propose de faire Meta avec autour de son application Instagram.
Oui, Insta, comme disent les jeunes, une application particulièrement prisée par les collégiens. Aujourd'hui, il faut avoir 13 ans pour ouvrir un compte Facebook ou Instagram. Pour répondre à la demande des 13-17, les firmes proposent donc depuis septembre des comptes spéciaux avec des restrictions intégrées, histoire de ne pas parler à n'importe qui ou de ne pas aller voir n'importe quoi.
L'affaire est prise très au sérieux par les géants de la tech parce que certains pays réfléchissent à une interdiction pure et simple des réseaux sociaux pour les ados.
Oui, alors c'est loin d'être fait et c'est loin d'être le cas partout, mais par exemple, l'Australie a annoncé vouloir bannir les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le pouvoir australien met la balle dans le camp des géants de la tech. Il leur dit, ça va revenir aux industriels de s'assurer que les utilisateurs ont bien l'âge requis, sous peine d'amende. En clair, il y a une responsabilité collective dans l'utilisation des réseaux. C'est l'affaire des parents, mais c'est aussi l'affaire du législateur et des firmes qui gèrent les applications.
Et en Europe aussi, le débat est sur la table.
Alors, il faut savoir qu'en France, par exemple, selon un récent sondage Ipsos, les trois quarts des parents considèrent que les réseaux sociaux sont importants pour l'intégration et la construction de leurs adolescents. Mais de plus en plus souvent, la question se porte sur le terrain de la santé publique. En septembre, l'OMS a appelé à agir pour préserver la santé mentale et sociale des jeunes utilisateurs. Les pouvoirs publics commencent à se saisir de la question.
Et quelle est la réponse des géants de la tech?
Alors Meta reconnaît que déterminer l'âge, hein, puisque c'est bien là la question centrale d'une personne en ligne, est un processus complexe, difficile. Les premiers comptes prévus pour la clientèle adolescente devraient arriver en France d'ici la fin de l'année, précise la communication de Meta. Ils sont déjà disponibles au Royaume-Uni. Comment ça fonctionne? Plusieurs possibilités. L'utilisation d'une photo du visage pour déterminer l'âge de l'enfant. Meta s'appuie sur le travail de l'entreprise Yoti, qu'il présente comme un spécialiste de la vérification de l'âge en ligne, un spécialiste respectueux de la vie privée des internautes. Ça veut dire que la photo ou les selfies pourraient être détruits une fois qu'ils ont été utilisés pour vérifier l'âge de la personne. Ceci étant, Insta peut aussi tout simplement demander à l'ado de fournir sa carte d'identité qui, nous dit-on, sera stockée ou chiffrée en toute sécurité. Enfin, Meta ne renonce pas à employer l'intelligence artificielle pour mieux cerner ceux qui seraient tentés de tricher sur leur âge. Autrement dit, l'industriel pourra passer au panier fin leurs profils, leurs abonnements, leurs interactions. et même les messages d'anniversaire de leurs amis. C'est très certainement la partie la plus intrusive d'une initiative qui, sur le papier, est avant tout destinée à protéger les plus jeunes sur les réseaux sociaux.
C'est quand même une bonne idée, non ?
Alors, ça peut tranquilliser les parents, mais reste à savoir dans quelle mesure, on l'a dit, ces filtres ne seront pas contournables par les enfants. Sur le papier, on va dire que ça va rassurer tout le monde. Alors, je vous donne quelques détails avec un contrôle sur les messageries, des restrictions sur les contenus sensibles ou violents, des rappels de pause toutes les heures. Le téléphone sonnera et on dira à l'enfant ou au jeune, attention, ça fait plus d'une heure que tu es sur cette application. Un mode sans notification la nuit, ou des options qui permettent de remonter le fil des discussions, savoir avec qui le jeune a discuté, mais sans toutefois lire les messages. Ou enfin, la définition de plages horaires pour l'utilisation de la plateforme.
Merci Olivier Four. Tout ça promet quand même quelques nuits sans sommeil à beaucoup de parents. Je vous propose maintenant une rencontre avec une chanteuse à part dans la musique française. Sarah Lenka raconte l'exil dans son nouveau disque, l'exil des femmes de sa famille. D'ailleurs, cet album s'appelle Isha, qui signifie femme en hébreu. Sarah Lenka en parle au micro d'Edmond Sadaka. You drive her crazy, you
drive us. Bonjour Sarah Lenka.
Bonjour.
Ce disque, il raconte votre histoire familiale, une histoire faite d'exil très souvent. Comment est née l'idée de cet album ?
J'avais envie d'écrire sur le déracinement. Et après, je me suis dit, tiens, les femmes de ma famille, je ne connais pas leur histoire. J'ai commencé à aller faire un travail presque ethnologique dessus, sur leur exil, sur l'Algérie. Plus je composais, plus je comprenais que chaque chanson allait être un voyage un peu à travers la vie d'une de ces femmes. Don't be ashamed when you walk through the crowd. Please hold your head up when you're walking down. I found you here when you were never there.
Qu'est-ce qu'elles ont finalement en commun, toutes ces femmes ?
Elles ont en commun d'avoir eu des destins un peu dignes de contes. C'était des femmes qui avaient beaucoup de courage, qui ont porté leur famille. Surtout, on a peu parlé d'elles après. C'est-à-dire que les générations arrivées à la mienne, je ne connaissais pas leur vie. Et je me suis dit, en fait, l'exil coupe la transmission qu'elles auraient pu nous donner.
Ce thème de l'exil, dans les familles, c'est un sujet qui est un petit peu tabou, quelquefois.
Il est vraiment mis sous silence. C'est-à-dire qu'il y a le silence des mots, le silence de l'histoire, le silence de ses racines. C'est comme s'il faut faire table rase du passé et venir rechercher tout ça. Ouais, c'est un peu briser le silence familial.
Parmi les titres de l'album, il y a Mouma, histoire singulière, là encore.
Ouais, alors Mouma, j'ai appris que c'était mon arrière-grand-mère, il n'y a pas si longtemps, qui était Miss Constantine, une femme qui a été encensée par la famille de son mari, puis complètement déshéritée. Et elle s'est retrouvée avec 9 enfants, l'exil, à porter tout ça, et seule, comme une reine déchue.
Sur ce disque, vous effectuez une sorte de virage sur le plan vocal. Vous étiez beaucoup plus dans le chant jazz il y a quelques années.
C'est vrai que la porte ouverte, en tout cas ma carrière de chanteuse, c'était le jazz. Après, il y avait toujours cette fibre un peu folk. Et ensuite, comme je parle d'où je viens, et comme ma famille vient d'Algérie, forcément, ça vient teinter ce côté folk, plus musique du monde, et un peu plus éloigné des standards de jazz. Mais par contre, on n'est pas éloigné dans le thème. Mon but, c'était de trouver une voix qui était plus naturelle. Et je pense que même aujourd'hui, si je devais refaire des standards de jazz, je le chanterais de manière peut-être plus juste.
Alors, toutes ces chansons sont écrites en anglais. Pourquoi ce choix de la langue anglaise ?
Il est simple. Moi, j'ai une culture très anglo-saxonne musicalement. J'ai fait mes études à Londres. J'ai habité là-bas 5 ans. J'ai été baignée dans que ce soit du rock, folk, musique du monde, très éloignée de la chanson française. Et si je devais écrire en français, ce serait une autre musique peut-être. Je ne ferme pas du tout la porte à écrire en français, voire à chanter en français. On verra.
Merci Sarah Lenka.
Merci à vous.
Sarah Lenka au micro d'Edmond Sadaka. Un nouveau journal dans quelques secondes maintenant sur RFI et puis dans une demi-heure Afrique Midi avec à la une Nicolas Sûr.
L'île Maurice, le Premier ministre Pravin Jugnauth a reconnu ce matin sa défaite aux législatives. L'ancien Premier ministre travailliste Navin Rangoulam devrait donc s'installer au pouvoir.
À tout à l'heure, on vous retrouve à 12h30 temps universel.